Europe 1.
Heures, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddei.
Bonjour, bon week-end. Donald Trump est-il invincible? On va consulter tout de suite Marie-Christine Bonzon. Elle est l'une des meilleures spécialistes en France des élections américaines. Je recevrai ensuite le politiste Luc Rouban. Il publie un livre passionnant sur les révoltes qui secouent depuis quelques années notre pays, des gilets jaunes aux agriculteurs et ce qu'elles révèlent de la société française. Et l'on terminera l'émission avec Louis Bousquet, l'auteur d'une histoire des Rolling Stones. Mick Jagger et Keith Richards s'apprêtent à repartir en tournée. Ils ont 80 ans.
Europe 1.
Marie-Christine Bonzon, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddei.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Vous y avez été journaliste pendant près de 30 ans, de 1989 à 2018, pour Voice of America et pour la BBC. Vous avez couvert sur place 7 élections présidentielles américaines. Alors Donald Trump a remporté 14 États sur 15 lors du Super Tuesday qui a eu lieu cette semaine. Nikki Haley, qui était sa dernière challengeuse, a dû jeter l'éponge. Il a l'air invincible. Est-ce que c'est le cas ?
Non, il n'est pas invincible, Donald Trump. Un revirement est toujours possible dans une campagne présidentielle américaine. Vous avez des tas d'événements qui peuvent causer ces revirements. Et évidemment, en ce qui concerne Trump, l'un des événements qui pourrait causer un revirement majeur, c'est une condamnation. Mais alors, une condamnation, je dirais, dans l'un des deux dossiers les plus sérieux qu'il a au train, c'est-à-dire les documents secrets qu'il avait emportés dans sa résidence luxueuse de Mar-a-Lago après sa présidence, et puis les événements du 6 janvier 2021. Au Capitole. Et puis, il doit faire aussi un petit peu de ménage. Il doit d'abord faire l'unité de son parti. On a vu qu'avec la candidature notamment de Nikki Haley, celle-ci a attiré certains républicains qui rechignent beaucoup à voter pour Trump jusqu'à présent. Et puis, il faut qu'il remplisse les coffres de sa campagne. Les procédures judiciaires diverses et variées auxquelles il a affaire, les allées et venues devant les multiples tribunaux, ça lui coûte énormément et notamment il prend sur les fonds de sa campagne. Il n'y a plus que 30 millions de dollars dans sa campagne. Ça peut paraître très élevé d'ici, de la France, mais des États-Unis, c'est très peu. Et notamment Biden, en ce moment, Joe Biden, le président sortant, a 56 millions de dollars. Donc pour le moment, il a l'ascendant, Donald Trump, sur Biden. Et ça, d'ailleurs, depuis un bon moment, depuis au moins septembre. Tant au niveau national qu'au niveau des États-clés, surtout dans les États-clés, parce que une élection présidentielle, ça se gagne dans les États-clés, c'est comme ça, des États donc fluctuants, plus qu'indécis, mais des États fluctuants. Et en fait, donc, Donald Trump est plus dominant aujourd'hui qu'il ne l'était en 2016, au même moment de la campagne, face à Hillary Clinton. Donc si le scrutin avait lieu au moment où nous nous parlons, Frédéric Taddei, eh bien Donald Trump serait élu, il battrait Joe Biden.
Nikki Haley, parlons de l'unité de son parti, parce que Nikki Haley a tout de même engrangé des votes, ceux des électeurs républicains traditionnels, des modérés et des indépendants aussi. Rien ne dit qu'en novembre, tous ces gens-là voteront pour Trump, qui dispose d'une base solide, mais qui ne représente, me semble-t-il, que 40% du parti républicain.
Oui, alors parmi les électeurs de Nikki Haley également pendant les primaires, il y avait une bonne partie de démocrates, puisqu'il y avait de nombreuses primaires du côté républicain qui étaient ce qu'on appelle des primaires ouvertes, et donc qui permettaient dans de nombreux États à des gens qui ne sont pas républicains ou inscrits sur les listes électorales comme républicains, car c'est possible de le faire aux États-Unis. Quand vous inscrivez sur les listes électorales, vous pouvez déclarer que vous êtes plutôt républicain, plutôt démocrate. Bref, il y a eu pas mal de démocrates qui ont cherché évidemment à nuire à Trump en votant pour Nikki Haley. Mais cela dit, elle représentait un courant très important dans cette campagne du côté républicain, puisqu'elle a attiré certains indépendants, c'est-à-dire des électeurs qui ne se reconnaissent ni dans le Parti républicain ni dans le Parti démocrate, et elle a attiré évidemment des républicains qui sont réticents, voire très réticents, vis-à-vis de Donald Trump, notamment ceux qu'on appelle les Never Trumpers, c'est-à-dire des gens qui ne voteront jamais. Donc là, il ne peut pas les persuader, ceux-là. Mais par contre, Donald Trump peut essayer de persuader certains des indépendants qui ont voté pour Nikki Haley, et également certains des républicains qui sont réticents, mais disons pas trop réticents. Et au fait, il y a environ 20% de l'électorat républicain qui n'est pas encore dans le camp de Donald Trump. Donc là, il y a du travail à faire, si vous voulez, et son choix de colistier, son choix de futur vice-président, s'il venait à être élu, eh bien, pourrait être très important pour tenter de se rallier ces électeurs qui manquent à l'appel pour le moment dans son camp. Alors, Donald Trump avait fait cela, c'est-à-dire qu'il avait pu tendre la main à des électeurs qui n'étaient pas ses des électeurs naturels en 2016. On se souvient qu'il avait choisi comme colistier Mike Pence, un évangéliste extrêmement conservateur, encore plus conservateur, beaucoup plus que Donald Trump de 2016. Mais il n'est pas sûr aujourd'hui qu'il soit, je dirais, dans l'humeur de le faire aujourd'hui. Il sait également qu'il a un gros réservoir de voix chez les abstentionnistes. Donc, et de leur côté, évidemment, il n'est pas du tout sûr que certains électeurs de Nikki Haley, comme je le disais, soient ouverts à la persuasion en ce qui concerne M. Trump.
Certains sondages montraient que Nikki Haley aurait été une meilleure candidate à la présidentielle face à Joe Biden que Donald Trump, qui, vous l'avez dit,
oui,
est détesté par une bonne partie des électeurs. Vous le pensez aussi ?
Oui, on manquait un petit peu d'informations parce que, évidemment, il y avait moins de sondages qui étaient faits concernant Nikki Haley dans les États-clés. Mais en tout cas, au niveau national, effectivement, elle battait, d'après les sondages, elle battait à plate couture, on va dire, le président sortant Joe Biden, tandis que Donald Trump le bat, mais le bat avec une mesure pour le moment au niveau national, et encore, je répète que c'est surtout dans les États que ça se passe, mais enfin, au niveau national, il le bat en ce moment de 4 à 5 points. Donc, tout le monde du côté républicain bat en ce moment Joe Biden, si vous voulez, mais Nikki Haley le battait à plate couture, et c'est quelque chose, évidemment, qui va compter, effectivement, de calcul politique de Donald Trump, non seulement ce qui concerne son colistier, mais aussi dans le message qu'il va pouvoir adopter aujourd'hui, maintenant, d'ici le 5 novembre, la date du scrutin présidentiel.
La Cour suprême a tranché cette semaine en décidant que Donald Trump ne pouvait être déclaré inéligible, comme l'avait fait le Colorado. Il peut donc se présenter légalement dans tous les États des États-Unis. Bon, on sait qu'il y a 6 juges républicains sur 9 à la Cour suprême, dont 3 ont été nommés par Trump. Mais pouvait-elle en décider autrement, la Cour suprême, si elle avait déclaré Trump inéligible ? C'était la guerre civile, non ?
Alors là, vous me posez une question qui est très difficile à laquelle il est très difficile de répondre, Frédéric Tahedi, parce que c'est la question ultra hypothétique, n'est-ce pas ? Parce que c'est une hypothèse qui se situe dans le passé. C'était quasiment, il n'y a pas de précédent sur ce dossier. Il n'y en avait pas ni dans un sens ni dans l'autre. Et la Cour suprême a statué. Elle a statué à l'unanimité et je crois que ce n'était pas surprenant. La Cour suprême, dans le contexte politique extrêmement polarisé aujourd'hui aux États-Unis, ne souhaitait pas être au nouveau se placer au milieu du débat politique comme elle l'a fait il y a quelques mois à propos de Roe versus Wade, c'est-à-dire sa propre décision qu'elle avait prise dans les années 70 à propos de l'avortement qu'elle a revirée. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ait une décision à l'unanimité. Je crois que les juges de la Cour suprême, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont voulu non seulement s'appuyer sur le droit, bien sûr, puisqu'ils ont statué que sur le droit, un État comme le Colorado n'a pas le droit de bannir du bulletin de vote un candidat sur la base du fameux 14e amendement, une mesure qui était jusqu'à présent obscure et dont maintenant tout le monde connaît l'existence. Mais bon, si elle avait décidé l'inverse, il y aurait eu des conséquences juridiques, bien sûr, puisque là, la décision aurait fait, comme celle qui a été adoptée cette semaine, elle aurait fait loi, elle aurait fait le droit. Cependant, au Colorado, c'était intéressant, parce que le Colorado avait interdit à Donald Trump de figurer sur le bulletin de vote de la primaire républicaine, pas le bulletin présidentiel. Donc, en théorie, le Parti républicain aurait pu changer de format et organiser un caucus, c'est-à-dire dans un caucus, vous n'avez pas besoin de bulletin de vote. Ce sont des gens qui se réunissent et qui votent chez eux, ou qui votent dans une salle de gym, ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, ils auraient pu contourner cette chose-là sur le plan juridique en ouvrant un caucus et non pas une primaire. Mais toujours est-il que ça aurait ouvert une boîte à Pandore, peut-être des manifestations de mécontentement, comme vous le suggériez, mais aussi le fait que d'autres responsables politiques, y compris démocrates dans les États, auraient pu se mettre à disqualifier à peu près tout le monde, et y compris des républicains auraient pu disqualifier Joe Biden. Donc ça aurait été véritablement le chaos électoral.
On fait une pause, ma Christine Bonzon, on se retrouve tout de suite après.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadéhi.
On continue de faire le point sur les élections présidentielles américaines avec Marie-Christine Bonzon. Joe Biden, maintenant, il a obtenu plus de 80% des suffrages des électeurs démocrates lors du Super Tuesday de cette semaine. Une adhésion donc plus forte que pour Donald Trump, mais une bonne partie des Américains doute de ses capacités mentales à être président des États-Unis. Et vous l'avez dit, il est donné battu, quel que soit le candidat républicain face à lui. Comment l'expliquez-vous ?
Il y a de multiples raisons à cela, Frédéric Tadini. D'abord, il est un président extrêmement impopulaire, le plus impopulaire depuis Jimmy Carter. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, au cours de sa longue carrière politique, n'a jamais été très populaire. Donc il est parti avec une cote de popularité relativement moyenne. Pour un président américain, il se retrouve aujourd'hui à 39% en moyenne de sondage de popularité, ce qui ferait rêver certains autres présidents à travers le monde, mais qui, dans le contexte américain, est vraiment très bas. Puisque, je le disais, cela fait plus de 50 ans maintenant qu'on n'a pas vu un président aussi impopulaire. Par ailleurs, son bilan, il est très rejeté, je dirais. Il est mal noté sur l'économie, très mal noté sur l'inflation et encore plus mal noté notamment sur la criminalité et l'immigration surtout, qui devient aujourd'hui la préoccupation numéro un des Américains dans cette campagne, avec la crise migratoire historique qui se déroule à la frontière sud des États-Unis, mais qui impacte non seulement les États frontaliers, mais également l'ensemble des États, de New York à Chicago, à San Francisco, etc. Mais c'est surtout l'acuité mentale de Joe Biden qui préoccupe les Américains, et c'est ce qui explique en grande partie sa mauvaise posture dans cette campagne. Ce n'est plus seulement les deux tiers aujourd'hui des Américains qui sont préoccupés par l'acuité mentale de Joe Biden, au-delà de son âge, il a 81 ans, mais ce sont plus de 80%, exactement 86% pensent qu'il ne devrait pas effectuer un second mandat parce qu'il ne serait pas un président efficace. Là, il y a une journée très importante, le mois dernier, le 8 février, qui a marqué un tournant dans cette campagne de ce point de vue-là. Le rapport donc d'un procureur spécial, Robert Hur, qui a été la première confirmation dans un document officiel des problèmes cognitifs du chef de l'État que les Américains observent chaque semaine, je dirais, quasiment tous les jours, quand il se déplace à travers le pays, quand il prend la parole, quand il fait un événement, ce qui est rare d'ailleurs, un événement de presse. Donc avec Joe Biden, si vous voulez, c'est plus que l'âge qui inquiète, c'est l'acuité mentale, c'est sa capacité à prendre des décisions. Et de fait, à ce stade, il y a maintenant, si vous voulez, des questionnements qui découlent de cette inquiétude et qui préoccupent aussi. Beaucoup d'Américains se demandent, mais qui prend les décisions à la Maison-Blanche? Le Parti démocrate met-il ses intérêts au-dessus des intérêts du parti en s'accrochant à Joe Biden, qui est même d'ailleurs contesté et qui inquiète au sein même de son propre camp? Donc ces questionnements sont désormais, je dirais, ancrés chez beaucoup d'Américains, et ils vont être extrêmement difficiles à dissiper pour Joe Biden.
Et si Donald Trump perdait tout de même l'élection en novembre prochain, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de hurler à la triche, de crier que l'élection lui a été volée? 60% de l'électorat républicain pense que ça a été le cas en 2020. Or, le système électoral américain a les mêmes failles qu'en 2000, quand il a fallu recompter indéfiniment les bulletins pour Al Gore et George W. Bush en Floride, ou qu'en 2020, quand Trump en a contesté les résultats. On peut toujours voter dans certains États sans présenter sa carte d'identité ou une justification de domicile, on peut voter par courrier, bien avant la date du scrutin, on peut voter dans la rue, etc. etc. Une majorité d'Américains n'a plus confiance dans le système électoral en vigueur, ça ouvre la porte à toutes les contestations, y compris côté démocrate d'ailleurs, en cas de défaite.
Tout à fait. Et d'ailleurs, au cours de primaires démocrates, notamment en 2020 et en 2016, on avait vu notamment Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, contester la tenue des élections primaires dans le camp démocrate, où dans plusieurs États de la fédération, certaines des voix en direction de Bernie Sanders par rapport à Hillary Clinton ou par rapport à Joe Biden avaient mystérieusement disparu. Donc, le système électoral américain est très, très imparfait. Il s'y passe des choses, comme vous venez de les énumérer, et beaucoup d'autres choses. Un militant, par exemple, peut venir récolter des bulletins de vote. C'est ce qu'on appelle ballot harvesting, ce qui est totalement interdit en France, par exemple. Donc, il est très imparfait. Il y a des irrégularités dans chaque scrutin, que ce soit local ou présidentiel, ou pour les élections de députés. Il y aura des élections législatives en marge du scrutin présidentiel. Le droit de contester est un droit qui fait partie de contester les résultats est un droit qui fait partie de toute démocratie, bien sûr. Maintenant, il y a des limites à ce droit. La violence n'est pas acceptable. Et on l'a vu en 2020-2021. Donald Trump a contesté violemment ses résultats, la victoire de Joe Biden, et il a été rebuté par toutes les institutions américaines qui ont tenu face à ce type de contestation véhémente.
Il nous reste quelques secondes, Marie-Christine Bonzon. Vous aviez été parmi les rares journalistes à envisager sérieusement une victoire de Donald Trump en 2016. Quel est votre pronostic cette année ?
Je me garde de tout pronostic pour le moment, mais je dirais qu'une victoire de Donald Trump est possible à ce stade. Effectivement, si Joe Biden ne remonte pas dans les sondages, s'il ne reprend pas, je dirais, le cap dans sa campagne, ça paraît difficile pour lui d'être élu, car Donald Trump est beaucoup plus stratégique encore qu'en 2016 dans cette campagne. Il fait campagne de manière très stratégique dans les États clés. Et par ailleurs, il y a un tel mécontentement envers Joe Biden que effectivement, c'est une année pour un challenger. C'est une année aussi très propice pour un candidat alternatif, Frédéric Taddeï, la plus propice d'ailleurs depuis 92, et le score historique du dernier candidat indépendant, Ross Perot, qui avait fait 19% des voix à l'époque. C'est l'année la plus propice, et d'ailleurs, il faut noter qu'hier soir, le mouvement centriste No Labels a décidé de lancer un processus de sélection de candidats pour essayer de trouver un ticket d'unité nationale à placer entre Donald Trump et Joe Biden. Donc, vous voyez, il y aura probablement quelques rebondissements dans cette campagne.
Merci, Marie-Christine Bonzon. On va voir maintenant avec Luc Rouban ce qu'il y a de commun dans les révoltes qui secouent notre pays depuis qu'Emmanuel Macron est président. Mais d'abord, une pause.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Luc Rouban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, chercheur au CNRS et au CEVIPOF à Sciences Po. Vous venez de publier Les racines sociales de la violence politique aux éditions de l'Aube. Vous montrez dans ce livre que les révoltes qui ont secoué récemment notre vie politique, que ce soit celle des gilets jaunes ou des agriculteurs ou même des jeunes de banlieue après la mort de Naël l'année dernière, sont totalement inédites dans l'histoire de France. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'on se retrouve dans une configuration tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'on était habitué jusqu'à présent à des violences politiques qui étaient partisanes, qui s'inscrivaient dans un cadre bien précis, avec une idéologie, avec un corpus intellectuel, ça pouvait être les anarchistes, ça pouvait être des révolutionnaires de toutes sortes, ça pouvait être, je dirais même, l'ultra-droite. Mais là, on se retrouve devant une forme de violence inédite dans la mesure où elle est, je dirais, à la fois très diffuse dans la société. Elle a des surgissements imprévus, elle n'est pas du tout encadrée par une doctrine ou par une philosophie politique. Je dirais, elle se développe sur un terrain purement interpersonnel, spontané, exprimant des colères et touchant toutes sortes de milieux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le cadre du militantisme habituel, on est dans un cadre très général. On va trouver, alors je donne des exemples, on va trouver, bien sûr il y a des jeunes dans les banlieues, mais aussi lors des manifestations contre la réforme des retraites, vous allez avoir des personnes âgées, des étudiants diplômés qui un jour se retrouvent devant le juge et disent « Bah oui, monsieur le juge, je comprends pas, je me suis mis à envoyer des choses sur des objets, sur les forces de police, et je sais pas trop pourquoi. » Et donc voilà, c'est ça qui m'a interrogé, qui, à mon avis, demandait quand même des explications.
Vous dites, en vous servant de l'enquête du CEVIPOF que vous avez effectuée auprès de 10 000 de nos concitoyens...
Avec des collègues.
Oui, bien sûr. Vous dites que toutes les classes sociales sont représentées dans les 26-27% de Français qui justifie le recours à la violence.
Absolument, et c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que ça m'a évidemment un peu surpris. On pense toujours qu'il y a toujours une forme de différenciation sociale dans le recours et dans l'appel à la violence, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est très général et que ça devient un registre légitime d'action, je dirais d'action sociopolitique, avec effectivement des personnes qui sont diplômées, qui appartiennent à des catégories moyennes ou supérieures, qui vous disent, mais sans le recours à la violence, on n'est pas écouté. Et le pire, c'est que parfois même, vous avez des élus, je cite le cas d'un maire qui, parce que les élus sont, et surtout les élus locaux, sont visés par ces violences au quotidien, mais on trouve même des maires, enfin en tous les cas, j'en ai trouvé un dans l'enquête qui disait bah, vous savez, de toute façon, l'État ne comprend rien et si on n'a pas recours à la violence, on n'y arrive pas, on ne se fait pas entendre. Donc c'est quand même le signe d'un délitement, si vous voulez, du rapport aux institutions, et d'une forme, je dirais, de décomposition aussi du lien social, parce que si vous avez des élus eux-mêmes qui commencent à penser que, dans le fond, l'état de droit n'est plus tellement efficace, mais qu'il faut passer par ailleurs, ça commence à devenir vraiment grave.
Ouais, et c'est vrai que ça aussi, c'est caractéristique de ces nouvelles révoltes, hein, c'est que ces mobilisations collectives, dites-vous, se doublent de violences à l'égard des élus, les maires en particulier, mais aussi les fonctionnaires. Hein, et ça aussi, c'est nouveau. Hein. Mais alors, vous l'expliquez comment ? Eh bien, Luc Rouban, vous expliqué par la conscience de plus en plus répandue de vivre dans une société inégalitaire. Élitiste, fonctionnant avec des passe-droits et pratiquant le mépris social. 63% des classes populaires ont ce ressenti de vivre dans une société inégalitaire, mais aussi 49% des classes supérieures.
Oui, tout à fait. Et alors, il faut bien comprendre ce qu'il faut entendre par inégalité. C'est-à-dire, et c'est là, à mon avis, un des grands problèmes actuels, à gauche notamment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'inégalité au sens de la redistribution des ressources économiques ou des revenus. Il s'agit de l'inéquité, c'est-à-dire le fait que la règle du jeu ne soit pas la même pour tous. Et ça, c'est un ressenti qui est très général dans la société française, qui touche maintenant, effectivement, les classes moyennes, les classes supérieures, et notamment aussi des chefs d'entreprise. Ce sont ceux qui, d'ailleurs, sont les plus enclins à critiquer le fait... On avait posé une question qui consistait à dire... c'était plutôt une proposition, demander aux enquêtés de répondre et de dire s'ils étaient d'accord avec le fait que, dans le fond, dans la société française, beaucoup de gens qui sont en haut de la société ne le méritent pas vraiment. Et ça, c'est terrible, parce que vous voyez que les chefs d'entreprise eux-mêmes sont les premiers à dire à 70%, ben oui, tout à fait, on est d'accord avec ça. Donc là, c'est quand même, ça devient inquiétant, c'est plus du tout, on n'est plus dans le cadre du populisme, si vous voulez, c'est-à-dire des pauvres qui mettent en cause une élite dirigeante lointaine, etc. On est vraiment dans une situation... je dirais très préoccupante, où des personnes diplômées qui ont des moyens, des ressources sociales, qui sont cultivées, commencent à vous dire, mais non, le système ne va plus, et on a perdu les valeurs, on a perdu les critères de, je dirais, d'évaluation qui devraient être normalement, partagés et, qui devraient asseoir cette société.
Alors tout ça, ça ne date pas d'hier, mais on a l'impression, en lisant votre livre, que c'est la présidence d'Emmanuel Macron qui aurait provoqué, selon vous, une crise de lucidité, c'est votre terme, hein ?
Oui, alors c'est très curieux, c'est, je dirais, l'un des, peut-être des énièmes paradoxes du macronisme, c'est qu'Emmanuel Macron a compris le problème, c'est très curieux, en 2016-2017, quand il fait sa campagne pour 2017, il dit clairement, mais voilà, et dans son livre Révolution, il en parle, la société française est trop figée, il a l'intention effectivement de faire évoluer le système des élites en France, etc. Puis après, bon, évidemment, la suite ne va pas être à la hauteur de ses objectifs ou de ses espérances, mais il pose le problème. Mais ce qui se passe, effectivement, à partir, je dirais, de l'époque du macronisme, il se passe, et on le voit bien avec les Gilets jaunes, il se passe qu'on voit apparaître ces mouvements de contestation de la hiérarchie sociale, de l'ordre social, qui ne sont plus encadrés par les partis, qui ne sont plus encadrés par les syndicats. Et dans le fond, c'est vrai que le macronisme correspond à une forme de, je dirais, de prise de conscience, d'un déphasage, d'une déconnexion entre finalement un univers, une méritocratie républicaine qu'on ne trouve pas, qu'on trouve peu, et une appétence ou une demande d'autonomie de la part des Français, et une demande aussi peut-être de reconnaissance, et ça on le voit très bien, on l'a vu avec les agriculteurs, on le voit dans très nombreux milieux, chez les enseignants, et dans bien d'autres milieux aussi professionnels.
On fait une pause, Luc Courban, on y revient. Viens tout de suite après.
Europe 1,
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec le politiste Luc Courban, chercheur au CNRS et au CVPOF à Sciences Po, qui vient de publier « Les racines sociales de la violence politique » aux éditions de l'Aube. Dans ce livre, évidemment, vous invoquez l'affaiblissement de l'État et des services publics qui serait le détonateur de ces nouvelles formes de révolte. Hein. Jusque-là, l'État passait pour le défenseur de l'intérêt général, ça n'est plus le cas.
Oui, ça c'est un gros problème français, parce qu'il faut bien comprendre que le statut de l'État en France est très particulier, on ne le retrouve pas dans les autres pays européens, parce que l'État c'est pas simplement un redistributeur de revenus ou de ressources ou un prestataire de services. En France, c'est quand même la grande machine qui va sélectionner, trier les élites. Donc si vous voulez, historiquement, sociologiquement, l'État a un rôle essentiel. À partir du moment où cet État commence, je dirais, à se délabrer, où on commence à voir que dans le fond, il est imprégné peut-être d'intérêts privés, on le voit avec un certain nombre de problèmes concernant le personnel politique, les certains ministres, des problèmes de morale publique plus au sens plus général du terme. eh bien, sa légitimité morale s'effondre, enfin disons s'effrite, et là vous avez un vrai problème, parce que comme c'est le grand garant de la République, parce que disons-le clairement, la République en France, elle ne tient que parce qu'il y a un État fort. Si vous avez un État qui devient faible, la République, cela disparaît, puis vous avez des rapports de force sociaux, c'est-à-dire que vous avez des mafias qui apparaissent, on le voit très bien à Marseille en ce moment, hein, c'est-à-dire que vous avez des gangs, en fait, des États dans l'État, avec même aujourd'hui, on a entendu ça il y a encore quelques jours, des juges et des procureurs qui vous disent, on est en train de perdre la bataille devant les narcotrafiquants à Marseille. Je veux dire, ça devient grave, parce que là, on se retrouve dans des situations qu'on critiquait, qu'on condamnait, notamment en Italie, avec des pouvoirs privés qui devenaient aussi puissants, voire plus puissants que l'État, ou qui pénétraient l'État, qui le maîtrisaient. Et là, en France, la question commence à se poser vraiment. Donc, si vous voulez, on est... Alors ça, c'est un exemple, mais d'une manière plus générale, vous avez quand même cette remise en cause d'un État capable, je dirais, de donner l'exemple. Parce que dans le fond, la question, certes, elle est économique, certes, il y a le problème d'accès aux services publics, mais il y a aussi une question de morale publique, et je dirais d'une certaine rigueur dans ses comportements, et il y a évidemment, chez les enquêtés qu'on a pu étudier, une attente de morale et d'honnêteté. Et ça, c'est très important.
L'autorité a fini par se discréditer.
Bah tout à fait, parce que à la limite, dans le fond, et c'est ce qui arrive notamment chez un certain nombre de jeunes des banlieues, ils vont considérer que les forces de police sont au service d'un système qui est pas plus vertueux que le leur, parce que dans le fond le leur il fait vivre une économie souterraine, que dans le fond on se retrouve devant intérêt privé contre intérêt plus vaguement public, et plus ou moins on sait pas trop ce que c'est, et donc là il y a un vrai problème de légitimité, de rapport à l'autorité et de rapport à l'institution, hein, parce que en même temps, si vous voulez, et c'est aussi un petit peu ce que porte, enfin, disons, ce qu'a pu exprimer à un moment donné le macronisme, c'est une forme de désacralisation des institutions, avec l'idée qu'il y aurait forcément une possibilité d'être plus proche des citoyens, mais dans le fond, cette proximité, alors ça c'est très spécifique à la France, joue contre l'autorité de l'État, parce que si vous êtes trop proche de ceux que vous devez gouverner, eh ben vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un de, je dirais, de suffisamment respectable.
Le rapport au mérite aussi est totalement à repenser. L'exemple était donné par le haut et ça n'est plus du tout le cas. On voit des réseaux de solidarité à l'œuvre, ou en tout cas, on les imagine comme tels.
Oui, parce qu'en plus, si vous voulez, à partir du moment où les critères ne sont plus très clairs, ne sont plus... Vous savez, c'est tout le problème, si vous voulez, par exemple, des diplômes en France. Bon, on voit très bien qu'une grande partie des classes moyennes, maintenant, s'inquiètent de voir leurs enfants, ou elles-mêmes d'ailleurs, avoir des diplômes qui n'ont pas vraiment de débouchés professionnels ou de débouchés en termes de mobilité sociale. C'est un vrai problème. Donc on a multiplié les filières, tout ça, ça devient extrêmement complexe. Et on sait très bien qu'entre les enfants qui vont avoir une mère enseignante qui va pouvoir les placer dans une préparation de qualité ou dans un lycée de prestige et les autres, il y a des différences essentielles. Donc si vous voulez, l'idée que dans le fond, la règle du jeu implicite prend le pas sur la règle du jeu explicite républicaine, ben cette idée se répand de plus en plus. Et alors là, vous avez, et c'est là que vous avez, vous ouvrez la porte aux soupçons, au complotisme, etc. Et après, ça peut partir effectivement dans toutes sortes d'imaginaires, je dirais, où il y a des réseaux, etc. Il peut y avoir aussi des réseaux. Je veux dire, même les paranoïaques ont des ennemis, n'est-ce pas?
C'est en vous lisant que je me suis dit, mais au fond, c'est peut-être pour ça qu'on est de plus en plus sensible aux accusations de harcèlement ou d'agression sexuelle à l'encontre des célébrités. C'est l'illustration, au fond, que les puissants auraient recours à la force et à la violence pour dominer les plus faibles.
Oui, alors là, c'est un cas un peu particulier, mais c'est vrai que ça vient un peu illustrer cette idée que dans le fond, il y aurait une règle du jeu très particulière, qui serait celle, je dirais, alors j'exagère un peu en disant ça, mais de la France d'en haut, d'une certaine France d'en haut. Et que, le reste de la France, ne pourrait pas comprendre parce qu'on est dans un milieu particulier, parce que c'est le milieu du cinéma, parce que c'est le milieu des artistes. Alors vous savez, il y a des choses qui se font, mais qui se font pas ailleurs, qui se font pas chez un artisan commerçant ordinaire, si vous voulez. Donc, effectivement, ça met en lumière cette espèce de fracture sociale souterraine et, je dirais, ces espèces d'isolats sociaux qui, dans le fond, vivent ailleurs. C'est une forme de sécession interne, si vous voulez. Dans le fond, on retrouve un peu, d'une certaine manière, j'insiste là-dessus, une forme de société d'ancien régime avec
oui,
des privilèges.
Et l'affaire du collier de la reine qui
une forme d'entre-soi plus ou moins illégal ou plus ou moins malhonnête, où il y a un arrangement qui fait que, dans le fond, Bon, bah, allez, un puis si on poursuit les ministres, de toute façon, ça débouche sur pas grand-chose.
Dernière question, il nous reste très peu de temps. Luc Rouban, votre conclusion, c'est qu'il suffit aujourd'hui de peu de choses pour renverser notre système politique. Et c'est assez grave, quand même, comme conclusion.
Oui, parce qu'on en arrive à un moment où, vous savez, il y a un terme en sociologie, c'est l'anomie. Et l'anomie, c'est le manque de normes, de rattachement. Et la France, par rapport aux autres pays, est un pays où l'anomie est très forte. C'est-à-dire, et c'est ce qui alimente la violence, justement. Et ce sont les travaux bien connus de Durkheim sur le suicide, d'ailleurs. Violence contre les autres ou contre soi-même. Et c'est vrai que là, on est dans une situation un peu de décomposition interne, où il suffit de peu de choses pour que, effectivement, l'horizon politique puisse basculer dans un sens ou dans un autre. Et c'est ce que confirment, d'ailleurs, les enquêtes électorales. On voit très bien que la fluidité électorale est extrêmement forte et qu'il devient très, très difficile de prévoir l'avenir.
Merci Luc Rouban, je renvoie à la lecture de votre livre, il est très 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 intéressant, Les racines sociales de la violence politique, c'est paru aux éditions de l'Aube.
Merci à vous.
On fait une pause et puis l'on va s'intéresser aux Rolling Stones. Mick Jagger et Keith Richards viennent d'annoncer leur prochaine tournée alors qu'ils ont 80 ans tous les deux. Alors qu'est-ce qui les motive encore ces deux-là? On va voir ça avec Louis Bousquet, l'auteur d'une histoire des Rolling Stones.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Louis Bousquet.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes l'auteur de Some Boys, une histoire des Rolling Stones paru chez Bouquin. Alors ce n'est pas un livre de critique musicale, c'est vraiment un livre de fans et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui parce que les Rolling Stones viennent d'annoncer une tournée de 16 dates en Amérique du Nord. La dernière en Europe, c'était en 2021. Or, Mick Jagger et Keith Richards sont aujourd'hui âgés de 80 ans tous les deux. Ils ont seulement un an de moins que Joe Biden, c'est okay. Vous dire. Hein. Alors à votre avis, qu'est-ce qui les pousse encore à monter sur scène à leur âge? Ça n'est pas l'argent, ils en ont énormément. La créativité musicale, on peut en douter, puisqu'ils jouent quand même en concert les mêmes chansons depuis un demi-siècle. Oui. Jumping Jack Flash, Honky Tonk Woman, Sympathy for the Devil, Satisfaction, Street Fighting Man, Midnight Rambler, Painted Black, que des morceaux qu'ils ont écrits quand ils avaient entre 20 et 30 ans.
Hein. Il y a 40 ans maintenant.
Voilà, minimum. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est le grand mystère Rolling Stone, c'est qu'est-ce qui pousse ce groupe à continuer en live, à continuer avec cette énergie, alors que la plupart des grands groupes de l'époque, des années 60, à commencer par les Beatles, à la fin de la décennie, ont explosé. Qu'est-ce qui fait la spécificité des Rolling Stones? C'est peut-être une aventure commune et une envie de continuer à avancer ensemble parce que, un jour est né ce groupe et finalement c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. C'est un sort commun. On a vu que dans les années 80, Mick Jagger a fait des tentatives de carrière solo qui se sont soldées par un échec. Le public n'a pas suivi et donc finalement il est rattaché aux Rolling Stones. Il ne peut pas s'en défaire. Donc c'est un attachement très fort à ce groupe et qui est aussi celui des fans. Donc quand on demandait à Keith Richards et à Mick Jagger pourquoi continuer, ils disaient qu'est-ce qu'on ferait des enfants. Les enfants c'est nous, c'est tous ceux qui les accompagnent lors de ces tournées.
Enfin, ce dont vous parlez, c'est propre à Mick Jagger et Keith Richards, hein, parce que Brian Jones est mort en 1969, Bill Wyman a quitté les Stones au bout de 30 ans, en 1993, il avait déjà 56 ans, hein. Charlie Watts est mort à 80 ans en 2021, il y a tous ceux qui sont partis, Mick Jagger et Keith Richards, eux, tiennent encore. Hein,
c'est le mystère, effectivement, c'est le paradoxe, c'est cette alliance donc, de ceux qui se sont surnommés à la fin des années 60, les Glimmer Twins, les jumeaux étincelants, ces deux caractères totalement différents, entre d'un côté Keith Richards, ce sauvage, ce dur au mal, et de l'autre Mick Jagger, un personnage beaucoup plus en séduction, beaucoup plus ambivalent. Et finalement, qu'est-ce qui fait que ces deux personnalités tout à fait contraires continuent de rester ensemble, d'enregistrer, parce qu'ils ont sorti un album, et continuent sur scène cette aventure? C'est quelque chose d'assez incroyable, et c'est ce qui fait la force de ce groupe. C'est que finalement, ce ne sont pas juste des individus, c'est une force qui est beaucoup plus frappante, plus marquante quand ils sont ensemble. Et c'est la force des Rolling Stones, c'est cette aventure commune, ce
vous,
travail.
Vous les appelez les Rolling Stones, moi je les appelle Mick Jagger et Keith Richards,
non,
si vous
non.
voulez. Mais bon, dans votre livre, vous dites d'ailleurs que Brian Jones est le personnage le plus important de l'histoire des Rolling Stones, alors que la plupart des gens qui vont les voir en concert aujourd'hui ne savent même peut-être pas qui c'est.
Hein.
Il faisait partie des trois membres fondateurs avec Jagger et Richards, mais il n'a pas été capable de tenir le rythme. Il est mort en 1969 à 27 ans. Il se droguait tellement qu'il n'était même plus capable de jouer de la guitare. Hein. Et puis c'était Jagger et Richards qui écrivaient les chansons, les Rolling Stones, c'était eux.
Tout
la preuve, c'est que ça dure encore aujourd'hui.
Tout à fait. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Brian Jones, c'est le premier Rolling Stone, c'est lui qui a fondé le groupe, c'est lui qui a trouvé le nom du groupe aussi, alors qu'il voulait appeler pour réserver une salle de concert, pour jouer dans un club, on leur demande le nom, il a cette idée géniale, Rolling Stone, en pensant à une chanson de Muddy Waters. Donc c'est lui qui a donc donné le nom, mais plus que ça, qui a défini un peu cette image de canaille. C'était quelqu'un qui très rapidement a été mis au banc de la ville dans laquelle il est né, dans l'ouest de l'Angleterre. Donc c'est lui qui a vraiment développé ce personnage. Et ce qui est marquant, c'est que Keith Richards, au début, était beaucoup plus réservé, et il a, au fur et à mesure du temps, pris les habitudes et le mode de vie de Brian Jones. Donc le premier Rolling Stone, c'est vraiment lui, l'archétype du groupe, c'est Brian Jones. Et effectivement, aujourd'hui, la plupart des gens l'ignorent, et le livre est justement un retour à ces Stones des origines des années 60 et 70, qui était pour moi quelque chose de très marquant.
Ceux dont tout le monde a la nostalgie, même ceux qui vont les voir en concert aujourd'hui.
Exactement.
Mais qu'est-ce qui fait le génie des Rolling Stones en tant que groupe de rock? Parce qu'il y en avait des centaines au début des années 60 à marcher dans le sillage des Beatles. Alors pourquoi celui-ci a-t-il surmonté tous les obstacles au point d'être encore là aujourd'hui?
Alors c'est ce qui est paradoxal, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alliance de ces deux personnalités très différentes. C'est aussi une idée, une volonté de durer. C'est peut-être la plus grande, ce qui les différencie de l'autre mastodonte de l'époque, les Beatles, cette volonté de perdurer, de prendre part à l'histoire aussi. Ils ont donné des concerts quand l'URSS, à la fin de l'URSS, c'était le premier groupe de rock à jouer à Prague. Ils ont joué à Cuba, ils ont été quand même introduits à Cuba par Barack Obama en 2016. Donc, il y a cette idée, on sait que Mick Jagger est un grand fan d'histoire, de se confronter au temps, de se confronter à la durée. Et ensuite, il y a aussi, il faut pas l'oublier, vous en parliez lors des concerts, mais des morceaux d'anthologie. Et c'est quand même plus facile de défendre, de jouer en concert 50 ans après sa création quand on a des morceaux incroyables comme Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Honky Tonk Woman.
Mais, on dirait qu'ils n'en ont pas fait d'autres depuis. C'est-à-dire que j'ai regardé, hein, c'est à 34 ans, tous les deux, ils ont le même âge, qu'ils enregistrent Jagger et Richards, Miss You et Start Me Up. Leurs deux dernières grandes chansons, diront certains, en tout cas les deux dernières à venir s'ajouter aux 15 qui font leur répertoire sur scène.
Hein.
Or, c'était en 1978 quand même, il y a 45 ans. Et pourtant, ils ont réussi à sortir depuis une dizaine d'albums, sans garde de chansons marquantes, et à rester le plus grand groupe de rock du monde.
Ce qui est
par quel miracle !
Ce qui est indéniable, on peut pas, voilà, c'est que leur grande chanson date maintenant, pour le mieux, d'il y a 40 ans, mais il y a cet esprit qui est encore là quelquefois, et surtout je pense que leur créativité s'est un peu estompée, on peut pas leur reprocher. Leurs grandes années, c'était le moment où ils étaient quand même vraiment en lutte avec la société, et je pense qu'à partir du moment où ils ont perdu ce rapport très conflictuel avec l'autorité, finalement ils sont devenus des businessmen qui gèrent des concerts énormes, tous les albums sont toujours effectués avec une promo réglée au millimètre. Donc...
Mais c'est quand même assez drôle l'idée qu'il y a des gens qui vont aller voir là dans les semaines qui viennent en Amérique du Nord, un Mick Jagger âgé de 80 ans en train de se dandiner sur scène en chantant Street Fighting Man, combattant de rue,
exactement.
Une chanson qu'il a écrite au moment de mai 68. C'est-à-dire, et on se dit, bon...
Il y a quelque chose de très surréaliste, et d'ailleurs même dans le nouvel album, quand on voit les conférences de presse qu'ils donnent, ils donnent encore l'impression d'avoir 25 ans, et il y a quelque chose d'irréel d'écouter les paroles et de se dire c'est quelqu'un de 80 ans qui raconte ce mode de vie, qui raconte tout ça, donc c'est toujours surprenant. C'est les premières rockstars qui ont accepté de vieillir. Avant, ça ne se faisait pas, et même eux ne pouvaient pas l'imaginer. C'est absolument impensable. On parlait de Brian Jones. Ils ne pouvaient pas imaginer que le groupe qu'il avait créé il y a maintenant 60 ans allait durer. C'est incroyable, c'est un miracle, malheureusement.
Mais c'est vrai que ce groupe a survécu à tout, en tout cas Mick Jagger et Keith Richards ont survécu à tout, à la mort de Brian Jones, au départ des membres des Rolling Stones, au scandale aussi. En approchant de la trentaine, Keith Richards a commencé à avoir de sérieux problèmes de drogue. Il a failli finir en prison et provoquer par la même occasion la fin des Rolling Stones à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il décroche de la dope vers 35-36 ans. Ensuite, c'est Mick Jagger qu'une carrière solo, vous le disiez, démangeait à 40 ans, qui a failli sacrifier le groupe sur l'autel de ses ambitions personnelles. Les autres ne pouvaient plus le blairer. On était au milieu des années 80. Keith Richards et Mick Jagger sont restés 5 ans sans se parler. Et après, c'était pas beaucoup mieux.
Mais c'est ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale.
Voilà. Chez les fans, peut-être. Oui. Qu'est-ce qui les a sauvés?
Je pense que c'est d'abord le fait qu'à la fin des années 70, comme vous le disiez, Keith Richards soit sorti des drogues. Il a eu un procès où il a vu la fin du groupe et c'est il s'est dit, c'est soit, enfin, les deux choses qui m'habitent, c'est la drogue, mais est-ce que mon amour de la musique et de ce que j'ai créé maintenant, enfin, à l'époque, il y avait 20 ans, qu'il était dans les Stones, est-ce que c'est pas plus important, finalement, que cette addiction? Et donc, il décide, à la fin des années 70, de sortir de cette spirale infernale dans laquelle il était rentré. Et ensuite, on doit beaucoup, malheureusement, à la carrière solo de Mick Jagger qui a été ratée, qui a complètement relancé les Rolling Stones. Mick Jagger, c'est quand même quelqu'un de très pragmatique. Il s'est rendu compte, finalement, que ce que les gens attendaient, ce n'était pas lui tout seul. Et que, finalement, Mick Jagger tout seul, c'est assez mauvais tant qu'il n'a pas.
Même quand il chantait des chansons des Rolling Stones, parce que les autres, d'ailleurs, ne lui pardonnaient pas au même moment. Et vous qui êtes assez jeune, Louis Bousquet, vous les avez vus forcément bien plus âgés que vous. Vous les avez vus sur scène. Vous racontez un certain nombre de concerts, notamment en Argentine.
Oui.
Ils sont toujours aussi spectaculaires, hein, les Rolling Stones, quel que soit leur âge.
Oui, tout à fait. Il y a encore cette volonté de produire un show total, et notamment Mick Jagger veille à ce que le résultat soit le même, le ressenti soit le même pour la personne qui est au premier rang et pour la personne qui est au dernier rang. Il va chaque concert aller chercher chacun d'entre nous, et c'est ce qui est très fort, c'est qu'il a vraiment une envie de nous faire rentrer dans une expérience commune, et c'est ce qui est très beau dans un concert des Rolling Stones, c'est ces moments partagés.
Ils seront en tournée en Amérique du Nord du 28 avril au 17 juillet. Il y a fort à parier qu'ils viendront en Europe un de ces jours. Ils n'ont après tout que 80 ans. Merci Louis Bousquet.
Merci infiniment.
Votre livre s'intitule Some Boys et il est paru aux éditions Bouquin.
Merci beaucoup.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, est arrivé à son terme. On se retrouve demain matin à 9h pour la suite. Dans un instant, ce sera Face à Philippe Devilliers, présenté par Elliot Deval. Bonjour Elliot, quel est le programme?
Bonjour Frédéric, et bien dans Face à Philippe Devilliers, nous allons parler de l'ARCOM avec Philippe, puisque Philippe Devilliers serait-il redevenu un homme politique engagé dans la vie politique active? Grande question qu'on va se poser dans un instant. On reviendra sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. On parlera de cette affiche polémique des Jeux Olympiques, mais également d'Europe et puis de Jacques Brel. Voilà le programme de Face à Philippe Devilliers. C'est dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Merci Elliot, bonne émission.